personnel, moi. Donc, voilà, donc on a les grands anciens. En gros, l'idée que le vivant évolue, c'est pas Darwin qui l'a inventé. Hein. Ça datait d'avant, même chez les Grecs, on avait des présupposés. Dans le monde musulman, on avait également des gens qui disaient des choses. Mais bon, c'est Darwin et Wallace un peu qui ont rédigé le truc. On les a beaucoup critiqués, on l'a caricaturé, on n'aime pas la théorie. Et même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui font évoluer la théorie, on en reste à Darwin. Quand on veut critiquer, on dit « Ah là là, Darwin avait tort !» On fait son procès, la boîte noire de Darwin, etc. Bon. Parce que c'est une icône, et les gens aiment bien attaquer les icônes, c'est plus simple que d'attaquer la théorie. Hein. Donc voilà, on a même des musées. Donc, lui, c'est Ken Ham. Alors en anglais, ham, ça veut dire jambon. C'est ça qui est rigolo. Mon téléphone sonne, je regarde ce que c'est. C'était Blatt Papas. Je vous salue. Je vous salue. Voilà. Bien. Ce qu'on dit, hein, non, vous ne connaissez pas la chaîne. Hein, on vous a repéré. Bref, donc il y a des musées où les gens font n'importe quoi pour nier la théorie. On a des hommes politiques, alors là du coup je vais faire ça en pagaie, en Inde, le ministre qui dit on va arrêter d'enseigner l'évolution parce que on n'a jamais vu un singe devenir un homme. Un singe devenir un homme, voilà. Ape turning into man, ça n'existe. Donc on arrête avec Darwin. Après on a ici le rabbin qui dit que Darwin a produit Hitler. C'est un rabbin. Là on a, oui c'est pas un rabbin, c'est un président américain, et il faut enseigner intelligent design. Donc c'est la théorie pseudo-scientifique qui dit que le vivant existe et il y a des forces intérieures et c'est Dieu. Hein. Voilà, donc vous avez dit qu'ils sont 78% à rejeter l'éducation naturaliste. Donc même ceux qui acceptent, en fait ça date de 2009, alors ça bouge un peu, ça monte, ça baisse, mais en gros ça reste très haut. Donc ils sont très nombreux à, même ceux qui acceptent que le vivant change, à ne pas accepter que Dieu n'est pas dans l'affaire. Donc on a du travail. Là, on a la Turquie qui n'aime pas Darwin, donc il est viré du lycée. Mais c'est Harun Yahya et son gros bouquin qu'il a envoyé partout dans les lycées, c'était en 2015. On a en Angleterre, Blair, il n'est pas gêné d'avoir des liens avec des écoles qui enseignent la création. Là, c'est où? Là, c'est la Serbie. Hein, ils veulent virer Darwin. Là, on a les Italiens, ils voulaient faire pareil, c'était 2004. Hein, on a une grosse époque, 2003-2004-2005, où on a une grosse... Ils se sont énervés. On les a un peu calmés, mais ils sont toujours là. Hein. La Roumanie, la Germanie, donc c'est l'Allemagne, la Pologne. Voilà. En gros, bref, il y a comme un problème avec cette théorie. Mesdames et messieurs, c'est la théorie la plus détestée du monde. Si vous en connaissez une plus haïque celle-là, alors il y a des études de genre, c'est bien. De toute façon, c'est lié à ça. Hein, c'est la question, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Donc, l'évolution, donc, il y a au moins... Si vous me dites, j'ai au moins 6, parce qu'en fait, je n'aurais 7 aujourd'hui. Et j'ai pas mis la religion, mais on pourrait mettre 8. Alors, la plus importante, c'est celle-là. Ce qu'il faut retenir absolument, c'est que tout le monde pense comprendre la théorie. Et c'est une malédiction. Et donc, je ne l'ai pas inventé, M. Monod l'a dit à son époque. Ce qui est vrai, c'est que tout le monde pense avoir compris la théorie. Donc, qui ici pense avoir compris la théorie d'évolution? Alors, prenez 7 copies doubles. Chacun. On va vérifier. Bon. Donc, si je résume. La théorie d'évolution est proposée par la science pour expliquer comment apparaissent des espèces vivantes. Qui ne comprend pas la phrase? Pas ça? C'est dans mon livre, alors. Donc, normalement, on comprend la phrase, et donc on se dit, puisque je comprends la phrase, j'ai compris la théorie. Et là, c'est le piège, parce que dedans, il y a plusieurs mots. Le mot théorie, le mot évolution, le mot science, le mot espèce et le mot vivante. Et là, pour le coup, vous pourrez me faire une copie de pour me définir ces mots-là, et vous aurez du mal. Alors, on va essayer ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie? Donc, une théorie, c'est pas juste une théorie. Oui, l'évolution est une théorie, comme la gravité. Si je lâche mon truc, il va tomber. Donc, les théories font des prédictions. Donc, l'évolution est une théorie, c'est pas un fait. Donc, je rebondis ce que vous disiez tout à l'heure, Olivier. Donc, ceux qui vous disent la théorie, l'évolution est un fait, ils abusent un peu. Moi, j'ai croisé M. Lumley, celui qui a découvert l'homme de Tocqueville. Il est aux fraises. Hein, J'ai essayé d'expliquer que théorie et fait, c'est pas pareil, mais il voulait pas discuter. Alors du coup, j'ai pas discuté en fait. Donc, on a la théorie du réchauffement climatique, de l'évolution, de l'atome, de la gravité, c'est que des théories. Donc la phrase, oui mais c'est qu'une théorie, est une des phrases les plus bêtes de l'univers. On en cherche d'autres, mais pour l'information, c'est la plus bête. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la partie 1, théorie. Après, on a quoi? On a science. Alors, tiens, c'est pareil, c'est marrant. Ceux qui connaissent Richard, mon voisin, et qui ont vu sa thèse, savent qu'il s'est intéressé à comment on reçoit le mot science. Quand on a une démarche comme la nôtre, on défend la science sous le sens de la démarche d'explication de la nature à travers la production de modèles validés par des formes expérimentales. C'est bon? En gros, j'ai un modèle, je vérifie par l'expérience, et si j'ai une réponse positive, ma théorie tient le coup. Et si j'ai un truc qui ne marche pas, soit je viens à la théorie, soit je viens le fait. Après, vous verrez le fait. On refait, puis on explique. En gros, c'est la démarche expérimentale. Et donc, c'est une démarche qui est la recherche de l'erreur. Si vous n'êtes pas en train de chercher où est votre erreur dans ce que vous faites, ce n'est pas de la science. Vous faites de la religion, ou de la politique. Et donc, il y a d'autres sens au mot science qui sont. Alors, le dogme de la science. Parce que souvent, ils nous accusent d'être des scientifiques et des dogmatiques. Donc, le corpus des connaissances que produit la science est un corpus qui évolue. Donc, ce n'est pas un dogme. Hein. On a la carte des savants. Donc, les gens avec des barbes et des blouses blanches qui font de la science, ce n'est pas la science, c'est des savants, c'est des chercheurs. Et parfois, c'est des ordures, c'est des fraudeurs, c'est des méchants, c'est des sexistes, c'est des racistes. Mais il y en a des biens. J'en ai croisé un ou deux. C'était bien. Et surtout, leur défaut personnel n'est pas la preuve que leur démarche n'est pas la bonne. Ensuite, on a ce que la science produit, la technologie. On a fait la bombe nucléaire, donc la science c'est mauvais. Ben non, ça c'est des politiques. On fait la bombe. Et les militaires aussi. Un peu. Ouais, donc la science, c'est plutôt ça que ça, mais quand vous parlez de choses à quelqu'un, vous n'êtes jamais sûr que lui ne va pas comprendre les autres sens. En fait. Donc avant de vouloir débattre, il faut expliquer que moi je parle de ça et pas de ça. Es-tu d'accord? Et vous dire non, vous ne pouvez pas. Donc la science c'est ça. Ensuite, je reviens. Espèce. Qu'est-ce qu'une espèce? Alors il y a 5 définitions. L'espèce zoologique, l'espèce écologique, l'espèce morphologique. L'espèce, j'ai oublié, enfin, c'est dans mon livre. Et donc la plus importante, c'est la définition de Ernst Mayr qui a dit qu'une espèce, c'est un groupe de populations, d'individus qui peuvent se reproduire entre eux. Ce qui ne marche pas forcément bien avec les fossiles, ce qui ne marche pas bien avec 99% de ce qui est vivant et qui n'est pas sexué. Bon, ça marche très peu en fait. Mais même là où ça marche bien, en fait, ça ne marche pas. Une espèce, c'est, vous voyez, là on a des chats. Parce que là ça va, là on a des chiens, voilà. Et là, les petites chattes vont faire des petits chatons, et là, des petits chiots et des petites chiottes. On a des boîtes. On n'a jamais un chien qui va donner un chat et inversement. On le sait, ça. Et parce qu'on connaît comment marche le chat et comment marche le chien, on croit qu'on sait comment marche l'évolution. Voilà. Alors qu'en fait, une espèce, en fait, c'est un mot qui est fixiste. On parlait d'espèce avant Darwin. C'est un indice que du coup ça marche pas. Donc, l'espèce humaine, c'est M. Carl Fallini qui l'a appelé. Donc, en 1958, on a eu notre nom, Homo sapiens. Pardon, on ne sait pas, mais. Voilà. Donc, depuis ce temps-là, on existe en tant qu'espèce. Avant, non. Avant, le concept n'était pas là. Si je regarde comment on voit aujourd'hui ce que c'est qu'une espèce. Cette fille, mais. En gros, voilà, là, j'ai le vecteur temps. Là, j'ai plein d'individus qui font du sexe. Parce qu'ils aiment ça, et donc ils font des petits, donc de génération en génération. Et puis là, il se passe un événement qui va séparer, donc soit une migration, soit les plaques tectoniques s'écartent, ou une rivière arrive, ou un mec met une barrière dans son champ. Gros connard, hein. Du coup, on a une grande lignée qui se sépare en deux. Et là, ce morceau de lignée qui est isolé des autres, c'est une espèce. Par définition. Et on voit bien que le petit, lui qui est là, son papa, il n'est pas d'une autre espèce, c'est important. L'important, dans mon schéma, si. Ça prouve quoi? Ça prouve que notre boîte espèce, elle est arbitraire. On a mis des contours. Mais la bestiole qui se reproduit, elle s'en fout de savoir ce qu'on en pense, si c'est une espèce ou pas, vous voyez. Et quand un lion et une tigresse se rencontrent et font des bébés, ça arrive. Parfois, le bébé, il n'est pas stérile. Conclusion, le lion et le tigre n'existent pas en tant qu'espèce. Ils sont en train de se séparer, mais ils vont, en gros, on va les tuer avant qu'ils soient finis de se séparer. Donc voilà, une espèce, en fait, il faut virer le nom, nous sommes des morceaux de lignée isolés dans le temps. Voilà. Donc, revenant à ma phrase de départ, je suis un peu embêté. C'est espèce, c'est pas ce que c'est. Et là, encore une nouvelle, c'est que le vivant sera encore pire. Qu'est-ce que le vivant? Alors, ceux qui connaissent Dirty Biology, en plus, cette dernière vidéo, il m'a copié mon livre. Il a dit acheté mon livre. Il a dit acheté mon livre. Et donc, il montre qu'on ne sait pas définir un vivant. Donc, on va essayer. On a eu plein de critères dans le temps. Donc, on s'est dit, est-ce que chimiquement, on est différent? On a vu que la matière vivante et la matière inerte n'étaient pas de même nature. En fait, le carbone qui est dans le charbon et dans la main du monsieur, c'est le même carbone. C'est les mêmes atomes, les mêmes molécules et les mêmes propriétés. Bon, donc c'est autre chose. Parce qu'on est le charbon n'est pas vivant. Qui pense que le charbon est vivant? À part des pas de Chopra. Une structure! Les organismes vivants sont très structurés. Donc là, on a un flocon de neige, très structuré. Donc ceux qui font des maths et des physiques peuvent vous dire comment c'est fait, moi j'en sais rien. En tout cas, c'est très beau. Il n'y en a pas de pareil. Et donc, une structure très, très, très organisée, qui grandit en plus, et qui n'est pas pareil que la voisine, ça pourrait être un intelligent. Qui pense que le flocon de neige est vivant? Ok, personne. Bon. Un métabolisme. C'est une structure qui va consommer de l'énergie, et dissiper et faire de la chaleur. Le feu est un métabolisme. Qui pense que le feu est vivant? On l'a cru dans le passé avec le feu d'ailleurs. Mais donc, bon, non, d'accord. Alors, une structure qui croit et qui s'auto-organise. Donc là, on a des missions là, et là, c'est des cristaux géants. Donc j'ai oublié le nom, vous allez sur Google, vous avez cristal géant, c'est du?
Je crois que c'est un NASCAR.
Mais le cristal, c'est quoi?
C'est du quartz, mais c'est de l'acide, c'est du silice.
De la silice. Comme ça, vous savez, et du coup, on est content qu'on sait, donc on pense qu'on a compris. Donc, est-ce que les cristaux de quartz sont vivants? Non, moi en plus. Ensuite, le mouvement, on a cru que ce qui bougeait était vivant. Et donc, à l'époque, les champignons étaient rangés dans les minéraux, et les plantes, on ne savait pas, mais les animaux étaient vivants. Là, on a des planètes qui bougent dans le ciel. D'ailleurs, ils ont reçu des noms de trucs vivants, Zeus, enfin Jupiter, etc. Est-ce que les planètes sont vivantes? Alors, on va oublier Lovelace et l'hypothèse Gaïa, qui est intéressante, mais ce n'est pas le sujet, qui pensent que Uranus est vivant. Donc, voilà, d'accord. Tout ça, rien n'est vivant. Donc, j'ai un dernier critère, la reproduction sexuée. Sauf que là, c'est une fourmi. Soldats, ils font nourrir et ils ne s'en produisent pas, celles-là. Est-ce qu'elles sont vivantes? Ah! Et pourtant, ça ne marche pas avec le. Donc, je n'ai pas le bon critère, alors. Donc, je n'ai pas de critère définitif qui sépare ce qui est vivant et ce qui est vivant. On ne sait pas. Intuitivement, on sait reconnaître. Enfin, maintenant, surtout, on sait que les bactéries sont vivantes. Mais genre, un virus, est-ce qu'un virus est vivant ou pas? Et pas. On n'est pas d'accord les uns les autres, on ne sait pas. Moi, je sais que, bien sûr que oui, parce qu'ils appartiennent à l'arbre du vivant, parce que c'est le même ADN, donc je sais que oui, mais je sais que d'autres ne l'admettent pas, donc ils ont tort, mais c'est comme ça. Donc, le vivant, comment on le définit, c'est très compliqué. Donc si je reviens à ma phrase du... Enfin, du coup, on a Schrödinger, le monsieur du chat, c'est lui, qui a défini le vivant comme une diminution locale d'entropie. Ce qui marche pour le feu aussi, mais c'est la meilleure définition que je connaisse, en fait. Parce que, localement, l'organisme crée de l'ordre, c'est hyper ordonné, et autour il fout le bordel. Donc l'entropie augmente autour. Et l'être humain est super vivant. On est super vivant. Donc je reviens à ma phrase sur l'évolution. Pour comprendre le mot évolution, il faut comprendre toute la phrase. Sauf qu'en fait, si je reviens à vivant, la vraie réponse à comment on définit le vivant, je vais dire ce qu'en fait j'ai trouvé. Le vivant, c'est ce qui évolue. Et du coup, on est embêté parce que du coup, pour définir l'évolution par le vivant, qu'on définit par l'évolution, vous voyez, c'est un peu embêtant. Mais c'est la vraie définition, en fait. C'est ça le plutôt de. Donc, du coup, c'est pas si simple, hein, en fait, quand on regarde de près. Et pourtant, quand vous réalisez la phrase, il vous semble que vous l'avez comprise. Donc là, vraiment, on a un grand vent d'humilité, on se dit mince, en fait, il faut que je fasse gaffe à ce que je pense. Et donc, typiquement, on pense qu'on la comprend pourquoi? Parce que la théorie d'évolution, elle nous parle d'objets qui sont ni infiniment grands, ça c'est l'univers. Vous sentez? ni infiniment petit, ça c'est une identité d'un atome. Donc ça, quand un physicien me parle de ça, je l'écoute. Quand il parle de ça, je l'écoute. Et quand on parle de souris de castor, je dis attends, ça se connaît. Je vais voir. Donc on a beaucoup plus de connaissances vraies ou fausses antérieures avant qu'on nous en parle. Et donc du coup, on écoute moins. Donc nous, on est dans le monde infiniment loin du milieu. Nous, on n'est pas là, on est au milieu. Donc on est dans le monde des champignons, des souris et des villes. Ça, c'est la Terre. On comprend ce qui se passe. Mais si je parle de l'univers, ou bien au niveau de l'espace ou du temps, 14 milliards d'années, qui arrive à 14 milliards d'années. Déjà, ma poutre quart d'heure, j'arrive pas à voir ce que c'est. Pourtant, j'ai dépassé. Effectivement. Une femtoseconde, le temps qu'un atome soit désintégré. En revanche, une rose qui fane, ça on comprend. C'est l'espace de temps. On voit le phénomène, on comprend. La dérive des continents, on veut bien y croire, mais on n'a pas vu. Okay. Donc là, on se dit, je l'ai vu, donc j'ai déjà des connaissances. Or, qui sait ce qui se passe vraiment dans une fleur en train de faner? Moi, j'ai vu végétal et j'ai oublié. Donc, voilà. Donc, nous, on vit là. Et quand l'évolution nous parle de ces choses-là, on pense qu'on a déjà compris les trucs. Du coup, on écoute moins. Donc, les objets nous sont familiers et on a des catégories mentales. On a des ontologies intuitives. C'est un gros mot terrible pour dire qu'on a des intuitions. Une ontologie, c'est un avis sur qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. Donc, on a la case lapin, la case canard, la case chat, la case chien. Et c'est des cases séparées. Et ce qui fait qu'un chat est un chat, c'est sa chatteusité. Un caillou a une caillousité qui fait que c'est un caillou. Pourquoi? Donc, la case lapin, la case canard, dedans je vais mettre le perroquet, là j'ai les poissons, là j'ai les arbres, là j'ai un merdier, mais c'est vivant. Là j'ai ici la nature, là c'est pas naturel, et là j'ai une boîte, et là c'est l'homme. Donc là, en résumé, c'est votre cerveau, il range comme ça. En gros, hein. On a des catégories, donc on range les trucs, et en fonction de l'époque où vous vivez, vous pouvez mettre la baleine là-dedans, ça ne vous dérangera pas, et là vous pouvez mettre la chauve-souris, vous pouvez savoir ce que ça ressemble. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'est le monde réel, c'est comment on le perçoit. Voilà, c'est tout. Après, j'ai pas le temps. Donc, les objets qui nous sont familiers, qui sait comment marche un arbre? Comment ça marche, hein? Comment on passe d'une graine à un truc énorme comme ça, qui pompe des quantités d'eau énormes, qui a des mycorhizes partout, qui a du phloem, du xylème, du vivère, des parenchymes. En fait, c'est compliqué. Qui sait comment marche une bicyclette, par contre? On lève la main. Qui sait comment marche une bicyclette? Qui peut me dessiner une bicyclette? On lève la main. Et vous allez faire ça, naturellement. Hein? Ça roule pas, ça tombe. Ok? Donc, dès de la familiarité, quand ça nous paraît familier, on surestime notre compréhension. On surestime comment marche, qu'on sait comment marche une chasse d'eau. Je veux dire, ça marche, mais comment ça marche en vrai? On sait pas, mais on pense qu'on sait. Donc, méfions-nous. Plus c'est familier, plus on est arrogant par rapport à l'objet. Notamment par rapport au terme aussi, le mot liberté, on connaît, on sait ce que c'est, le mot progrès, c'est quoi le sens? On n'est pas invité à être humain pour ça, mais lui, il vous dira que. Et démocratie, c'est tellement. Les gens croient que la France est une démocratie. Oui, car c'est bon, on ne sait pas ce que c'est. Et avant, on a les mots comme espèce, vivant, évolution, et là, c'est des mots familiers, on les croise tout le temps, on pense qu'on les comprend, et quand on est venu dans une phrase, la phrase est claire, et pourtant, on n'a pas compris. Donc il y a une distance que dit-il, parce que quand on croit, enfin, ce qui est facile à penser, on aime bien parce qu'on pense que du coup c'est beaucoup plus vrai. La preuve, la publicité marche. La publicité marche. Plus vous, et les slogans, je sais pas, un slogan de pub que vous avez en tête, les écoute. Une pub qui va de goût. Comment? Ils vont se lèver pour la lettre. Voilà, bon, c'est vous ne les allez pas, hein. Il y a un effet de vérité qui est parce qu'on le pense facilement, ça nous paraît entre guillemets naturel, et donc ça nous paraît plus vrai que si c'était dur à penser. Et ça, c'est un piège. Et comme on a dit, des catégories mentales faciles à penser, ça c'est le requin, ça c'est la pigargue, hein, c'est la pigargue. Là c'est une truite. Voilà, on comprend bien les choses, donc on croit qu'on, que notre case éléphant, elle est vraie, parce qu'on a compris comment ça marche. Or, comment marche un éléphant, c'est encore plus compliqué qu'un arbre. Donc, je vous dis. Donc, on a des intuitions sur les objets dont nous parle la théorie. Et parce qu'on a des intuitions, en plus, on a une facilité fonctionnelle dont je n'ai pas le temps de vous parler. Donc, il y a des trucs, mais je ne vais pas en parler. Voilà. C'est super intéressant. J'ai un chapitre dans mon bouquin. Là, c'est de la bougie, ça c'est génial, mais je ne vais pas en parler. Voilà. Donc, résultat, parce que c'est des objets très familiers qu'on croit avoir compris, nous qui. Qui est contre, hein, qui n'accepte pas la théorie de l'évolution, c'est pas pour ça à moi d'avant. Qui pense que c'est pas vrai? Personne? On est 100% ok avec la théorie de l'évolution. Tant mieux, mais. Ça m'est arrivé d'avoir des salles différentes. Hein. Donc, parce que on est tous là à penser qu'on a compris, on a des mauvais arguments pour la descendre. Et en face, bah c'est pire parce qu'ils ne sont même pas renseignés. Donc, on a par exemple tout pourri, typiquement. Regardez, si c'était vrai, pourquoi est-ce qu'il y a des millions de trucs comme ça et qu'on n'en a pas un seul comme ça? Comment on a fait? Donc, ils confondent notre ancêtre. Australopithèque avec un chimpanzé, ce qui est très con, et il voudrait que parce qu'il y a beaucoup d'humains et un peu de chimpanzés, on ait tous les stades intermédiaires. Ça marche pas comme ça, hein. donc c'est stupide, mais n'empêche que ils pensent qu'ils ont compris la théorie, et quand on pense qu'on a un truc, on cherche pas à l'avoir, donc ils s'en saignent pas. Donc voilà, c'était la première malédiction, ça va. Seconde malédiction: la pensée essentialiste. Épisode 4, la pensée bien. L'essentialisme. C'est le fait qu'on pense avec des boîtes. Voilà. On a la naturae, donc l'échelle de la nature. Les choses sont rangées du minéral à Dieu, avec végétal, animal, homme. Là, il y a votre Kundalini qui passe comme ça. Donc, ce cycle de réincarnation, c'est les gentils, vous montez, et puis vous redescendez, et à la fin, je ne sais pas où ça va, mais il n'y a pas de monde. Et donc on a plein au Moyen-Âge, etc., de même, l'univers était vu comme ça. Et tout le monde était heureux. Les minéraux étaient heureux, les autres étaient heureux, et on a été mélangés, et c'était séparé. Et donc l'homme n'est pas un animal. Et donc on a ces boîtes-là, je vous les rappelle. Toutes les boîtes qui sont là, ce sont des ontologies intuitives. C'est des boîtes. On ne sait pas pourquoi on range ensemble ce poisson pélican, ce poisson non genre, et ce requin marteau qui va pas être tout. Pourquoi on les range ensemble? Parce que culturellement, on est habitué à les ranger ensemble, plus ou moins machin. Il se trouve que, d'un point de vue systématique, nous sommes tous des poissons. Donc les poissons, cette boîte-là n'existe pas. Okay? Parce que certains poissons sont plus proches de nous que d'autres poissons. Donc ça c'est le coin, hein. il a cassé les poissons. Donc ce mot-là n'existe pas. Et pourtant, c'est le monde dans lequel on vit. Notre cerveau, il marche comme ça. Et parce qu'il marche comme ça, on n'arrive pas à penser que ça pourrait changer. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Les êtres humains et tout en... Ah, je sais pas là. J'avais un schéma avec un arbre, mais ça viendra après. Du coup, je reprends. Donc on a ces cases-là, parce que c'est comme ça qu'on perçoit le monde. Regardez, le monde, il est là. Il est infiniment complexe, c'est marqué là, donc il y a plein de stimuli, une infinité, et nous, on n'a pas une infinité de sens, on a 5 sens. Hein, c'est tout, hein, que 5 sens. Ou alors 180, ça dépend, parce qu'il y a, ça dépend ce qu'on compte. En fait, il y en a plus de 5, mais bon, restons à 5. On a 5 à 7 heures, ou 180, en tout cas moins qu'une infinité, et donc on ne reçoit que ça. Ça c'est ce qui est envoyé, ça c'est ce qui est reçu, donc il y a un peu une perte de signal. Et votre cerveau, en plus, derrière, il va s'activer. Crac, j'active ces cases-là. Voilà. Parce que j'ai perçu un visage, donc c'est là. J'ai perçu une émotion, j'ai perçu tout ça. Donc, votre cerveau, la perception est une action. Vous n'êtes pas une fenêtre ouverte et puis le monde se déverse en vous. Non, non, vous avez une grille de lecture. Donc, vous ratez plein de choses. Et moi aussi, mais vous plus. Et donc, parce qu'on est essentialiste, on pense. Alors, j'ai droit à des questions agressives hier à Nice, donc j'ai peur de rien. Ouais, il m'a dit, ah, mais c'est nul. Merci. Donc, les choses obéissent à une nature propre, c'est comme ça qu'on voit les choses. L'essence est invisible. Qu'est-ce que le caillou est un caillou? Bah, c'est un caillou. Ça se voit. Et c'est organisé donc, par rapport à ça. Donc, ce qui est invisible est plus important que ce qui est visible. Et c'est ça qui organise les choses. Et donc, du coup, on a, je vous l'ai dit, on a l'homme,
L'homme.
La femme est là aussi, mais
l'homme est là.
Et donc on a ce tronc énorme et les choses sont rangées comme ça, du protoplasme. C'est Dieu, hein. Et donc le vrai arbre du vivant, il est rond en fait, hein. C'est la boule vivante. Documentez-vous le film Espèce d'espèce. Il est super. Voilà. Achetez mon livre aussi. Mais je suis un auteur stressé. Je veux que les gens. Bien, donc voilà, sur ma lecture, c'est que on a une pensée comme ça, très bien rangée. Et c'est bien rangé, et on veut pas qu'on nous fout ce bordel là-dedans. Or, la nature, elle s'en fout. Donc ça va bouger. Troisième malédiction, le langage. Donc depuis tout à l'heure, je parle avec des mots. Je vais faire une expérience et je vais retirer les mots. Alors, je vais prendre les noms. Donc, alors, il y a moins d'infos qui se perdent, mais vous en recevez moins quand même. Ok ? Je peux continuer ou il y a encore d'autres vannes, personne n'est chanté ? C'est bon ? Merci beaucoup. Donc j'ai des mots, et sans les mots, c'est compliqué. Donc, et les mots répondent au langage, le langage répond à une logique, à une histoire, et le langage, il n'était pas prévu qu'on le construise pour parler de la théorie d'évolution, à l'époque. Donc, bref. Donc le langage a pour fonction de parler du monde que nous percevons. Le monde que nous percevons, je vous rappelle, c'est ça. C'est pas ça. Donc le langage, il est super bien foutu pour parler de ça. Qu'est-ce que je perçois, comment je le vis, mais qu'est-ce que le monde réel, le cerveau, il ne sait pas faire. Donc on a inventé la science pour ça, mais on a beaucoup de mal. Donc le langage, il sert on a un but. On est les verbes fonctionnels là. Dans une phrase, on a toujours un sujet, un verbe, un complément. Normalement, on donne une phrase. Donc on a une action, et donc un agent. Notre cerveau, il réfléchit en qui a fait quoi, quand, comment. Et il y a un qui. Et quand il y a un qui, il faut qu'on réponde à qui. Et donc, le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe sont tous dirigés pour décrire une action avec un agent et des résultats. Si la nature n'est pas organisée avec des agents qui font des actions et qui font des résultats, le langage n'est pas armé pour en parler. Or, le truc, c'est sans doute ça. Quoi. Ou alors, c'est Dieu qui fait des trucs et puis c'est nous. Là, ça marche hyper bien. Vous que la religion, elle est super bien adaptée au langage. Donc, l'idée fonctionnelle, c'est que on a tendance. On a un projet. Comme j'expliquais tout à l'heure. Bref, on a une lecture où il faut que les choses aient une fonction et on va leur attribuer une fonction même si elles n'en ont pas. Quoi. Les enfants pensent que les nuages existent pour pouvoir voir dans le jardin. Et les gens plus âgés qui ont Alzheimer aussi. Donc c'est que ça reste entre les deux, en tâche de fond. Le langage est comme ça. Donc nous inférons des projets à tout, parce que le langage est fait comme ça. Et qui dit projet dit c'est prévu, que c'est planifié, que quelqu'un est comment. Donc du coup, on va chercher un projet. Donc quand je vois tout ça, regardez, cette spirale, tout ce nombre d'or partout présent dans toutes les. Ça, c'est un chou, ça, c'est une. Je sais pas, c'est un. Ah, des fous. Ah, c'est. En vrai, je sais. Et du coup, on finit par. Regardez l'arbre, il a des racines pour enjamber le trou. Alors. Quand on rajoute la dimension temps, l'arbre était là avant le trou. Donc les racines étaient là avant le trou. Le trou d'après, les racines sont là. Mais spontanément, c'est facile de demander, mais tiens, c'est marrant, voilà, on dirait, c'est comme s'il voulait enjamber le trou. Donc le cerveau adore ça, et donc c'est un piège. Voilà, c'était la troisième, le langage n'est pas armé pour parler d'autre chose que ça. Non, c'est pas le temps. Quatre, nous autres, donc là c'est un package, je vous fais un package tous les biais. Parce que tous les biais, c'est quand même pas de chance, ils vont tous dans le même sens. Certains pourraient nous inciter à croire Darwin et d'autres à ne pas le croire. On tous, ils vont dans le sens que Darwin est un gros connard. Donc, qu'est-ce qu'une intuition ? C'est une conviction très forte, immédiate, difficile à remettre en cause, qu'on ne sait pas justifier. Je le sens, c'est comme ça, j'ai une intuition. On ne sait pas quelle est son origine. Et donc, je vous propose, comme petit exercice d'humilité, de me dire quelle est la différence entre une intuition. Il y a un préjugé. Alors, ceux qui font de la philo vous diront qu'il y a certainement quelqu'un, un mec qui a montré qu'il y a des différences. Mais pour celui qui est lambda et qui fait l'expérience de son intuition ou d'un préjugé, comment il distingue les deux ? Un préjugé acquis socialement.
Oui.
Pas que.
Souvent.
Renforcé par la. Oui.
Voilà. On hérite.
Et socialement, on a aussi dit que une intuition, c'est bien. Un préjugé, c'est mal. Donc quand je pense à un truc et que ça fait du bien, ça ne peut pas être un préjugé. Si les Arabes sont là pour voler notre travail, ça fait du bien de le penser. Donc c'est une intuition. Vous le sentez ? Voilà, bon, c'était pas le sujet. Hein. Donc, notre cerveau, là, en termes d'intuition, le cerveau sert à réaliser du futur. Le cerveau est dans le boîte crânienne pour qu'on soit encore en vie dans 20 secondes, si possible, en train de copuler pour qu'on s'en produise. Alors, non ? J'ai une objection ? Bon, vous avez compris le truc, hein. En gros, le cerveau sert à reproduire des cerveaux. Quoi. Et donc, il cherche des régularités, des schémas, de quoi anticiper. Quand on voit ça, on dit, c'est pas du hasard. On n'a pas de hasard. Parce que le hasard, c'est, dans 20 secondes, je vais être mort, bouffé par un crocodile. Alors que si je vois le crocodile avant, si je perçois à travers le hasard qu'il y a deux billes, en fait, c'était ses yeux, au salaud, je reste en vie. Donc le cerveau, il cherche des schémas. Lui, il va chercher un écouteur penché, par exemple. Je le renvoie vers le. Donc, je vous rappelle, on raisonne en termes de projet. Donc, M. Monod a dit, mais la phrase est trop longue, on se passe. En gros, voilà. Les êtres vivants ressemblent vraiment comme si c'était des projets. Et Dawkins a dit que quand on regarde le vivant, c'est comme si c'était designé. Alors, l'illusion du design, quoi. Donc, c'est normal d'avoir ça. Et parce qu'on a cette illusion, on ne peut pas croire que c'est fait tout seul, quoi. Donc, on pense qu'il y a. Bref, là, c'est l'air ou pas, mais. Donc, c'est contre-intuitif parce que quand on regarde autour de nous, de là, la Terre est plate. Donc moi, j'ai jamais vu une Terre ronde. Qui a vu une Terre ronde de ses yeux en vrai ?
Oui. On est sur la mer.
Dans la mer, la Terre est ronde. La Terre est ronde sur la mer. Vous voyez le raison arrondi ?
Oui, quand un bateau disparaît à 1
km. Mais ça, c'est parce que il y a la diffraction, c'est des rayons lumineux. Personne ne voit de ses yeux la Terre ronde. Bon, en tout cas, vous voyez bien que le marteau tombe plus vite que la pluie. Donc, c'est que la Terre attire plus le marteau. On est tous d'accord là-dessus ? Bon, parce que vous êtes allé au lycée. C'est bien déjà. Ou à la fac. Mais donc c'est la même force, mais la plume est rendue par l'air. Mais c'est la même force qui est celle de. Ceci, c'est le virus d'Ebola. Il est tout petit, il n'est pas dangereux. Tout petit. Donc intuitivement, on pense que la Terre attire le marteau plus que la plume, on pense que la Terre peut être plate, intuitivement, et on pense que une petite cause aura des petits effets. On ne peut pas tomber malade à cause d'un truc qui est invisible, pas possible. Il a fallu du temps avant qu'on apprenne que les microbes étaient dangereux, que c'était ça qui causait les morts. Donc voilà, donc juste pour dire que cette intuition-là, elle ne nous aide pas à voir le monde réel. Ensuite, nous avons tous une intuition dualiste. Les enfants, avant de savoir parler, distinguent, et on peut voir dans leur cerveau, c'est pas le même endroit, les objets physiques et les objets psychiques. Je vais vous le prouver. Et on est anthropomorphiste, on voit de loin partout. On va avoir tendance à dire, oh regarde ce petit chien, il ne manque que la parole. Tu vois, il le sent que je suis triste. Bon, il y a une empathie, mais ben, on surestime un petit peu de la capacité des animaux à raisonner comme des humains. Parce qu'en fait, ils raisonnent comme des animaux, et c'est tant mieux pour eux, parce que c'est mieux pour eux. Donc, je vous le prouve, vous êtes prêts ? Donc, sans le savoir, ben, vous faites à la fois du dualisme et de l'anthropomorphisme.
Je vous le montre.
Donc, l'anthropomorphisme, c'est pas compliqué, tout le monde voit des visages. Enfin, qui ne voit pas de visage dans les quatre images ? Vous êtes normaux. Les deux dualistes, et c'est là que c'est marrant, c'est que vous êtes 100% à voir que le poivron est en colère. Est-ce que c'est possible ? Bonne réponse. Le balai nous voue une haine certaine.
Non.
C'est de la haine où il est pas vrai qu'on s'en parle avec lui. Il voit tout seul. Non, tu vois pas toi.
Non, il est cool, ça reste pas.
Préjugé, raciste. Merci beaucoup. C'est Avrette Morel, 2018. Ouais, La machine à laver est relativement altérée, il a trop bu. Ouais, et le réveil est embarrassé, il est sûrement en retard. Donc, non seulement vous voyez de l'humain, mais vous voyez des objets psychiques avec des émotions humaines chez un poivron. J'insiste, hein. Donc ça, évidemment, quand... Et c'est peu... Bien. Vous n'arriverez pas à ne pas avoir de visage. Il faudrait vous lobotomiser la partie qui est là. En droite, là, c'est le hémisphère droit. Il faudrait bien viser, sinon on vous tue. Donc, malgré vous, vous voyez des visages et des émotions. Et donc, quand on généralise ça à l'ensemble du monde, c'est forcé que c'est compliqué de raisonner avec la science. Que la science retire les visages et retire les émotions. Et ça fait mal à notre petit cœur. Bien, et donc du coup, ça, ce sont des espèces vivantes très 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 moches. Et donc, on va leur attribuer plutôt des qualités plutôt négatives. Là, c'est des émotions très très mignons. Oh, regardez, c'est bon. Et ceux-là, on ne veut pas qu'ils disparaissent. Donc quand ils sont en danger, on veut les sauver. Là, qui s'en fout déjà. Donc on a un jugement moral immédiat qu'on peut pas. Alors on peut raisonner pour s'en méthode, mais voilà, immédiatement, on va eux ressemblent à des humains. On lit leurs émotions, on leur attribue des qualités positives. Et là, c'est bizarre, c'est dégueu. Et c'est vrai, c'est dégueu. Bon. Et on a un sens à la causalité. On ne peut pas s'empêcher de voir des liens de causalité partout. Donc si je lâche. La star à laquelle tombe, vous verrez, non j'arrête parce que j'ai gâché le temps, vous verrez qu'elle tombe parce que j'ai lâché. Et vous, c'est immédiat, quoi. Il n'y a pas besoin de chercher comment c'est pas. Voilà. Et vous avez raison, pour le coup. Mais dans la vie de tous les jours, un événement important doit avoir une cause importante, parce que c'est la causalité. Et pourtant, le chaos, c'est du chaos. Le battement d'une aile de papillon en Floride peut amener la pluie au lieu du grand soleil des Vesoul. C'est pas ça la phrase, mais ça, c'est la phrase. Et pourtant, au fond, vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas qu'un papillon peut provoquer un ouragan en Floride. Hein? Non. Ah, dites-le que je suis un peu seul. Voilà. Et pourtant, parce que voilà, on a ce truc de la causalité, si c'est énorme, la cause doit être au moins énorme, du coup, on a Dieu qui est. Voilà. Et on a ça. On détecte que l'agent vous renvoie vers le poivron en colère, le balai, papa, conjoint. Ce sont des, on a traduit un poivron et un balai comme s'ils avaient des émotions, des intentions, et donc une agentivité sur le monde. Donc on détecte de l'agent, parce que lorsqu'il y a un bruit dans le buisson, et ça pourrait ou être le vent, ou un tigre à dents de sable, sabre. Le tigre. Si je fais l'erreur de première espèce, le faux positif, c'est ça, le faux négatif, je vais dire oh, c'est que le vent et que c'est le tigre, je suis mort. Si je fais l'erreur de dire ah, c'était un tigre et c'était le vent, c'est pas grave. Donc il vaut mieux faire une erreur plutôt que l'autre. Et donc on va surinterpréter la présence d'agents qui peuvent agir, notamment sur nous, pour nous bouffer. Donc on voit de l'intention partout. Et parce qu'on a de l'intention partout, on se dit, la nature, elle ne va plus faire ça au hasard, elle va produire au hasard des organismes. Et donc Darwin a tort. Voilà. Donc quand on voit tout ce qui se passe, ou les ouragans, ça, on explique que c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et les dieux sont en colère. Du coup, là, il fallait sacrifier une vierge, ça revenait, et le reste, on dit, il fallait pas laisser les bêtises se marier. Parce que du coup, on a Catherine, l'ouragan. Ils l'ont dit, hein, j'ai pas menti. Et on a tous fait ça dans notre vie. Qui n'a jamais dit cette phrase que j'ai dit, mais personnellement, la télé ne veut pas s'allumer. Est-ce que la phrase est intelligente? Est-ce qu'il est digne de vous? Bon. Parce que vous mettez de l'intention partout. Ça déborde, vous débordez sur les autres. Voilà. Et donc, là, ça, c'est la pire. Croyons dans un monde juste. On a tendance à penser que bien mérité, une grosse vie bien. Non, bien mérité. Oh ouais. La phrase civile. Bien, mal acquis, mon bien mérité. Je corrige ça. Personne ne l'a dit. Le crime ne fait pas. On se dit, à la fin, les gentils sont récompensés, les méchants sont punis, et on va au cinéma pour ça. On va voir le. Et on a ce biais d'internalité. Comment ? Et si le français, c'est... Oui, mais enfin, qui va les voir? Quelqu'un y va? Pardon, j'ignorais. La réalité, c'est de dire on a tendance à surestimer les explications internes par rapport aux explications contextuelles pour expliquer un comportement. Si quelqu'un en frappe un autre, on dit bah, c'est parce qu'il est méchant. Non, c'est que l'autre, depuis une heure, il crache à la tête. Donc, du coup, le contexte explique pourquoi il l'a frappé. Et à cause de ça, on va avoir tendance à blâmer les victimes. Et on a un truc récurrent, dégueulasse, mais humain. Une femme se fait violer, on lui dit, mais tu portais quoi hein? Et puis si tu t'es fait violer, peut-être que bah, tu l'as cherché. Donc c'est des réflexes totalement normaux et dégueulasses. Votre cerveau est là-dedans. Donc attention à ça, et donc parce qu'on surestime les explications internes et que le monde est juste, on ne peut pas accepter que la nature zigouille tout le monde n'importe comment, ne récompense pas les gentils, parce qu'on peut être gentil et puis mourir pour rien. Si ça arrive. Donc ça c'est... On aime bien croire ça, et si le monde était comme ça, il serait plus juste. Mais le monde est-il juste, quoi. Et puis, quand on revient à l'essentialisme psychologique, on a des cases, etc. On est finaliste, c'est-à-dire que les choses existent pour le but que nous, on leur lie. Et à cause de tout ça, bah, on a obtenu, nous, des chevaux qui tirent bien plus fort les voitures qu'avant. On a des vaches qui font plus de viande. On a des barres à chats. Je vais pas décider. Et on a le chou qui a là, sur la même plante. Mais on l'a sélectionné pour produire des grosses fleurs, des gros bourgeons, des grosses spines. Mais la nature, elle avait fait un truc de base, c'était le chou, quoi. Donc, l'être humain sélectionne avec un projet en tête et produit des espèces différentes. Donc nous, on le fait, ça. Mais est-ce que la nature, elle fait ça? Bah, on va avoir tendance à lui attribuer des projets et des intentions. Parce que c'est confortable comme pensée. Et en plus, il n'y a même pas de hasard, je vous le prouve. On a deux images, une d'elles a été générée au hasard, l'autre c'est du hasard qui a été modifié. Laquelle des deux images est générée au hasard? Qui vote pour l'image de gauche? La gauche étant ce côté-là.
Et la droite,
ah non, c'est contre ça. La gauche, c'est là. Qui pense que ça, c'est le hasard? Bien haut la main, on assume. Il y en a une qui est plus hasard que l'autre. Non,
c'est une hypothèse.
Qui pense que c'est à droite, le hasard? Vous avez raison. Le hasard produit parfois des clusters. Et j'ai mis une image, même si c'est une image à dater un petit peu, en janvier 2015 ou 16, tous les Michel sont morts. J'ai le 0, mais j'ai le Delpech, et j'ai des 4. Bon, bah c'est Michel, ça. Et là, on a des trous. Voilà. On a les avions qui se crachent. On a le bloc des séries. Parfois, ça arrive. Donc, parce que nous, on confond hasard et régularité. Hasard, c'est régularité. Quand c'est régulier, que c'est moucheté un peu partout, ça ressemble à du hasard. Donc. Quand on a des trucs... Là, on dit, ah, regarde. Là, ça, c'est un pentacle.
C'est du hasard. C'est travaillé.
Comment?
Oui, c'est travaillé.
Travaillé. C'est... Voilà, on pourrait croire que c'est volontaire. Donc, du coup... Notre cerveau, il n'aime pas ça. Il va chercher dans les irrégularités si ça n'a pas un sens. Or, bah non, le hasard produit ça de toute façon. Et donc, du coup, on voit parfois des visages dans les nuages. Maintenant, je vous pose la question, qui a déjà vu un nuage dans un visage? Et pourtant, puisque là, on voit des visages. Regardez, on pourrait. Donc, il y a un type d'erreur qu'on fait plus que l'autre. Et bien, ce type d'erreur, c'est celui qui, justement, nous empêche d'accepter Darwin. Donc, je résume. On a tout ça. À cause de tout ça, Charles nous agace profondément au fond de nous. Si on raisonne en scientifique, on accepte. Mais si on oublie tout et qu'on vise par rapport à nos émotions et nos ressentis, Charles, il nous énerve. Et il énerve beaucoup les créationnistes. Parce qu'il leur manque le côté scientifique. Voilà, donc l'ironie, c'est le bouquin, et l'univers, c'est le... Nos intuitions sont là à cause de l'évolution, et à cause de ces intuitions, on n'accepte pas l'évolution. C'est quand même vachement rigolo. Les nazis. C'est moins drôle. Pourquoi on n'aime pas Darwin? Parce que darwinisme social. Et que des gens, dont le rabbin tout à l'heure, vous disent, s'il n'y avait pas eu Darwin, on n'aurait pas eu les nazis, parce que si la nature fait n'importe quoi, alors il n'y a pas de morale, etc. Et on a eu des gens qui ont utilisé Darwin pour faire des trucs pas jours, notamment M. Spencer, non, lui c'est Rabelais. M. Spencer, lui c'est Charles. Là. Bon, lui c'est Charles Darwin, lui c'est Herbert Spencer. Ce sont deux êtres humains différents, et celui qui a dit la survie du plus apte, c'est lui. Le salon, c'est lui. Ok, Darwin a jamais dit ça. Darwin, de son vivant, a toujours refusé qu'on appelle sa théorie comme ça. Mais Spencer pensait que les plus aptes se trouvaient dans la nature et donc il fallait encourager cela. Notamment, il a écrit « Toute protection artificielle des plus faibles est un handicap pour le groupe. » Donc la sécu, les hôpitaux pour les malades, hein, voilà. Il y en a qui sont en infériorité, bah, il faut les éliminer pour que se reproduisent uniquement ceux qui sont valides. Vous voyez ? Donc moi je suis myope depuis très longtemps, donc je suis relationnaire. On la pousse quelque tard, moi j'étais pas digne de vivre selon lui. Mais il y a pire, après il y a encore d'autres choses. Après on a c'est bien, c'est vrai. On a Galton. Alors, Galton il était cousin avec Darwin, plus, c'est Galton. Et lui c'est un fils de pute. Hein. Enfin, il a carrément dit on va stériliser les inférieurs. Voilà. Il dit pas on va les tuer, au moins on va les stériliser et on va vraiment laisser que les autres se reproduire. Donc il a inventé l'eugénisme, le vrai, d'origine, et en effet ça a abouti au nazisme. Mais c'est ces mecs-là qui ont fait ça. Parce qu'ils ont voulu importer dans la société comment la nature fonctionne. Personne n'y fallait faire. Donc on a, à la même époque, on a la chronologie, on repérait dans la forme des crânes les qualités. Des humains, donc là on avait le crâne du singe, le crâne du nègre à l'époque, hein. Là on a l'humain et là on a Prométhéus. Donc c'est on a ce gros lobe frontal là, donc ça montre qu'on est supérieur à cela. Vous voyez ? Bon, c'était la science de l'époque. Et nous en France, on a encore un en plus, c'est qu'on a Madame Royer qui a traduit Darwin. Elle a traduit Darwin parce qu'elle elle traduit Darwin et puis elle s'est dit, oh quand même, moi je trouve qu'il n'a pas assez insisté, donc elle a fait une préface de 64 pages, raciste, eugéniste, etc. Donc, et Darwin a réagi en disant quand même, elle est un peu curieuse cette dame, un peu arrogante de mettre dans mon bouquin ce qu'il dit à elle, quoi. Donc en France, quand vous lisez la traduction originale, vous lisez la traduction de Madame Royer. Donc pourtant qu'on ait une femme dans les sciences, on est bien content, mais c'est pas chance, c'était pas un bon casting. Hein. Voilà. Et donc ces messieurs, voilà, le spencerisme, c'est laisser la nature faire. Le galtonisme, on va l'aider un petit peu, hein, et on va serrer des gens. Et donc c'est des gens qui font un appel à la nature. La nature est très très bien, importons tout ce qu'elle fait chez nous, et faisons pareil. Donc du coup, on a la réponse qui est la de Hume, de David Hume, qui dit, on ne doit pas dériver d'un être un devoir. Phrase à retenir pour le devoir, hein, pour le... Donc ça veut dire quoi? C'est pas parce que c'est dans la nature qu'on doit le faire. On a des comportements dans la nature avec des lions qui bouffent des morceaux, enfin qui les tuent, pour que les femelles soient disponibles. C'est pas top top, on le fait plus. Tu arrêtes, hein? Je t'ai vu, hein? Tu arrêtes de tuer les bébés. Or, le darwinisme social n'est pas du darwinisme. C'est du spencerisme ou du galtonisme. Donc, s'il vous plaît, quand quelqu'un vous dit ça, traduisez en ça. Et ça évitera le... Bon. En fait, c'est une maladie qui est hyper importante parce que les gens disent que Darwin c'est le diable à cause de ça. Alors qu'en fait, dans la nature, parfois les animaux sont gentils. On n'a pas que la compétition ou la prédation. On a aussi l'amensalisme, c'est qu'on vit l'un à côté de l'autre puis sans interagir. On a le commensalisme, c'est quand une espèce rend la vie de l'autre plus facile, sans en tirer profit. Et la symbiose, c'est quand les deux vivent ensemble et nous sommes tous des symbioses. Dans vos cellules, vous avez des mitochondries. Et à l'époque où nos papas-mamans étaient unicellulaires, et ben les mitochondries, c'était une bactérie étrangère. Elle est venue, elle s'est installée chez nous, paf, et maintenant, elle bosse pour nous. Enfin, elle est devenue nous, en fait. C'est excitant, hein. Mais c'est la fin de l'autre. De qui c'est bien mangez-en. Bien. Résultat de tout ça. Alors, là, j'étais en conférence à Tours, et malheureusement, à un moment donné, j'ai fait ça.
Je ne le referai plus. Bon, bref. Non, mais c'est bon. J'ai vu ça. Pas de montage. Hein. Donc, l'angoisse morale, c'est que si le fait que le monde est juste est une illusion, si la nature ne fait pas bien les choses, alors il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. En deux ans. Ça n'existe plus. Et quand on regarde ce qui se passe, ça c'est les êtres qui ont disparu lors des grandes extinctions. Ça c'est ce qui est en train de. Non, ça c'est les grandes. Non, ça c'est l'arbre du vivant. Et puis là, tout ça, bah, c'est mort. Ah, là c'est mort. Puis là c'est mince là. Et ça c'est en train de mourir. Donc profitez-en parce que ça va disparaître. Donc quand on regarde ça, on dit quand même à un moment donné, soit Dieu est un gros vicieux qui a bien fait, soit la nature, juste elle fait mal le travail quoi. Ça marche pas avec comment on veut penser au jardin d'Éden, le fait que les arbres font des fruits, nourrissent, tout est beau, quoi. La nature est belle, mais sauf que la nature, elle ressemble aussi un petit peu à ça, c'est un charnier, parce que tout ce qui est dans le vivant, 99% de ce qui est vivant est mort, quoi. Les espèces disparaissent. Donc, la nature est amorale. Donc, c'est pas immoral, c'est amoral. Il n'y a pas de morale dans la nature. Et ça, c'est dur à supporter. Parce que si la nature est amorale, j'aurais beau faire beaucoup d'efforts pour être gentil, ça peut ne servir à rien, quoi. Et donc, les gens vont me dire, s'il n'y a pas de morale, alors Hitler avait raison, parce que tout est permis, quoi. Donc, c'est cette angoisse, parce qu'à la fin, en gros, je vous fais le spoiler, dans 4 milliards d'années, ça c'est la Terre, et puis, bon, on sera peut-être... Je pense qu'on aura fini la réunion, ça va. Mais le soleil va exploser, donc, qu'on soit gentil ou pas gentil, tout va disparaître. Et on ne peut pas penser ça. Et ça, c'est la... On fait tout pour ne pas y penser. Et quand on pense Darwin, ben, forcément, ça implique ça. Et ça, c'est angoissant, c'est l'angoisse morale. Je suis tout ce que j'ai vu ça. Ensuite, c'est très vexant. Très, très vexant. Parce que ça, c'est grand-maman. C'est arrière-grand-mère. C'est ta gorille, en fait. Donc je m'en finis. Nos ancêtres ressemblaient davantage à des gorilles qu'à nous. Et ça vexe des gens. Alors que moi, je trouve que c'est un bel animal, pas de raison. C'est un vrai selfie. Le seul a vraiment montré la photo vaut une fortune. Et donc, on veut être spéciaux. L'être humain, il est spécial, il n'est pas comme les autres. Du reste, on fait plein de trucs que d'autres humains ne font pas, on porte des lunettes. Ça, c'est un grand accomplissement. Or, en fait, le selfie réel, c'est ça. Là, on est au milieu, et donc là, c'est notre galaxie, notre galaxie, puis on est au milieu, et on veut être au milieu, quoi. Sauf que quand on regarde une lumière, pour nous, on n'est pas au milieu, quand on est dans un point paumé, au bord de la galaxie, autour d'une petite étoile sur une planète qui est là depuis pas longtemps, en fait. Et notre espèce, à nous, est là depuis 200 000 ans, sur 3,8 milliards d'années de vie. Donc, il faut être humble, et c'est vexant. Et donc, nous, on voit le monde comme ça, et le monde nous voit comme ça, en fait. Et avec le climat qui est en train de changer, on va se prendre des tarbes dans la tête dans pas longtemps, et on risque de disparaître. Hein, et donc, il y a une théorie de M. Ernst Becker, que j'aime beaucoup, qui n'est pas prouvée pour le groupe, donc là, c'est un peu spéculatif, qui dit que l'être humain est particulier, on a un gros cerveau, et ce qui fait qu'on est nous, la différence entre l'humain et le non-humain, c'est que nous, on sait qu'on va mourir. Alors, c'est pas prouvé, peut-être que les animaux aussi vont mourir, mais vu cette preuve du contraire, on est les seuls. Voilà. Et parce que ça, pour continuer à vivre quand même, on a développé des stratégies, qui sont des stratégies de gestion de la peur, et donc on a des grands projets. On est nationaliste, on fait des grands bâtiments, on est des grands artistes, on fait de la science, on fout des voitures en orbite. Des projets qui vont plus loin que nous. Et donc, on veut se reproduire, on veut faire des familles, on veut créer des bouquins, les gens les achètent, les aident dans la bibliothèque dans 100 ans. Qu'est-ce qui motive qu'on fasse tout ça? C'est étonnant, en fait, qu'on soit motivé à ce point-là. Et bien, pour Ernst Becker, c'est parce que ça permet de dépasser notre enveloppe charnelle et donc de transcender la mort. Alors, le plus simple, c'est encore d'être religieux. Du coup, il n'y a aucun effort à faire. Mais quand on est plus exigeant, on fait tout ça. Et donc, sa théorie, c'est que dans la nature, ça c'est des cerveaux humains, chimpanzés, etc. On a un gros cerveau, et à part les éléphants et les baleines qui ont un gros corps, les autres ont un truc qui est plus fou. Et comment ça se fait? comme pourquoi il n'y a pas dans la nature d'autres animaux avec un cerveau aussi important, avec des facultés aussi grandes. Selon lui, c'est parce que, peut-être, quand un animal arrive à un niveau où il peut concevoir qu'il va mourir, ça le rend dépressif. Et quand on connaît les dépressifs, on sait que c'est un gros fardeau. Hein. On connaît bien. Et donc, les espèces qui ont atteint ce niveau-là se sont éteintes. Et l'être humain a développé en même temps la capacité à nier la mort. En faisant plein de choses. Et parce qu'on est capable de nier la mort, alors on peut supporter d'être intelligent. L'intelligence, c'est aussi un fardeau. En partie. Alors, je dis pas que c'est vrai, mais c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça va dans le sens de la vexation, etc. C'est que ça nous rend insupportable le fait d'être là et qu'il n'y ait pas de raison. Qu'il n'y ait pas un projet qui avait prévu que depuis le départ, qu'il y aurait l'être humain, paf, et que tout était autour pour lui. Parce que quand on lit la Bible, l'univers existe pour nous, hein, c'est de nous le projet. Et c'est rassurant, mais quand on regarde pour le vrai, voilà. Donc ça, c'est la pire. Hein. Et donc, du coup, si je résume les traits, c'est tout ça. Et comme j'ai déjà dépassé, je m'arrête là. Et donc, c'est normal de douter, de questionner, de rejeter la théorie. Les gens qui acceptent spontanément la théorie de l'évolution, ils sont pas normaux. C'est eux qui sont pas normaux. Donc, moi, je dis, ouais, on est un peu. Normalement, c'est normal, parce que ça va tellement à l'encontre de comment on vit le monde. Du coup, il faut être gentil avec les créationnistes. Ça va être très très dur. Parce que des fois, ils sont très 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 cons. Mais des fois, pas toujours. Donc je vais débattre avec le mec de la page Dédarwinisez-vous sur Facebook. Ouais, c'est prévu qu'on échange, on a dit mal, mais c'est prévu qu'on fasse une émission où on va échanger. Il va m'expliquer pourquoi il croit ce qu'il croit. Et certainement, ça va recouper pour moi ce qu'il y a là et pour lui autre chose. Donc on va comparer nos éducations. Mais bon, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, qu'elle soit maudite ou pas, l'évolution est vraie, il faut s'y faire, c'est donc des os, pas des os. Et voilà. Du coup, si quand même, avant de finir, il est quelle heure?
Non, tu as eu le temps.
Deux fois.
C'est une heure juste.
Deux fois alors, le temps.
55
oui,
minutes.
Oui, alors du coup, j'ai le temps. Ça va? Pas trop chaud? Du coup, parce qu'on sait que c'est normal de ne pas voir la zone d'évolution, il ne faut pas mépriser les remarques stupides. Donc là, j'ai une petite collection, vous allez voir, parce que bon, je vais les lire, il y a des trucs, c'est bête. Si l'homme est descendu singe, pourquoi reste-t-il des singes? C'est bête, hein? Où est le chemin manquant? La nature est trop bien faite pour être le fruit du hasard. Ça, c'est comme les crop circles. Les hommes ont une côte de moins que les femmes, c'est la corps en bord de la récit d'Adam et Ève. Comptez vos côtes. Non. Ah, mais les gens le disent. Ah, mais moi j'ai vu ça. Si la biogénèse, donc la biogénèse, c'est le passage de la matière inerte à la matière vivante, est possible, pourquoi ne voit-on pas de nouvelles formes de vie apparaître en ce moment? La deuxième loi de la thermodynamique rend impossible l'évolution vers plus d'ordre et de complexité. L'explosion cambrienne dément catégoriquement l'évolution qui affirme un changement graduel des espèces, etc. Donc, elles sont toutes au moins un peu stupides, mais pour leur répondre, il faut avoir compris la théorie. Donc, qui sait répondre à toutes ces questions correctement aux créationnistes?
J'en ai une autre.
Ah, une autre question.
Si la théorie évolution existe,
pourquoi il n'y a que l'homme qui a évolué? Pourquoi que l'homme aurait évolué? Voilà. Ben, ça rejoint ça. Pourquoi est-ce que les singes n'ont pas pris le latin?
Exactement. Pourquoi
ils ne
font pas des humains? Pourquoi
c'est
réservé qu'à
l'homme? Ouais, c'est là. Donc, alors, rapidement, l'homme ne descend pas du singe, l'homme est un singe. Le chenon manquant ne manque pas. La preuve, c'est qu'on a des fossiles d'Australopithèques. Il est possible de mobilis et certains, on ne sait pas où les ranger. Donc ces mecs, c'est pile entre les deux boîtes. Or, les boîtes, rappelez-vous, les boîtes n'existent pas. Donc, ils ne manquent pas. La nature est trop bien faite. Tout le monde est en train de mourir. Les hommes n'ont pas de côte de moindre, c'est bon. La biogénèse est possible, oui, mais alors, les espèces vivantes actuelles, elles sont là depuis 4 milliards d'années. À une vache près. Si jamais un petit nouveau venait arriver dans l'école, il serait cassé à la gueule. Parce que quand il y a une molécule, on la bouffe chez nous. Okay. Donc, si éventuellement il y a une petite poche au fond d'une montagne, isolée du reste du monde, où il n'y a rien de vivant, peut-être que la vie peut apparaître différemment, mais partout où il y a déjà du vivant, rien ne peut apparaître. parce qu'il sera bouffé tout de suite. Donc, c'est pour ça que ça ne paraît pas. La chaleur dynamique. Comment ?
Les mutations, quand même.
Oui, mais. Mais on est tous apparentés. On a un arbre vivant.
En fait, ça peut apparaître, mais ça ne nous réussit
pas. Ça peut apparaître éventuellement, mais qui ne sera pas. Directement. De minéral à vivant, ça peut apparaître, mais ça va pas être très complexe parce que très vite ça sera bouffé. La loi de la thermodynamique, vous connaissez, c'est que l'entropie ne peut qu'augmenter dans un système isolé, pas fermé. Parce qu'hier on m'a repris.
Donc
je le sais depuis toujours. Parce que la Terre, à côté d'elle, elle a une sorte de petite bulle de. Le Soleil. Donc, pour tirer le Soleil, la Terre est un système qui est presque isolé. Et avec le Soleil, elle n'est pas isolée. Donc, on reçoit de l'énergie en masse tout le temps. Donc, la secondaire ne s'applique pas. L'explosion cambrienne. Explosion cambrienne qui a pris uniquement 40 millions d'années.
Donc, à cette échelle-là du temps, naturellement, ça reste graduel en fait. Hein.
Donc, c'est de l'explosion par rapport au changement habituel qu'on voit. Il y a une époque où, boum, il y a 560 millions d'années, on voit apparaître plein de choses parce qu'il y a un changement important, mais ce n'est pas une explosion et ça ne remet pas en cause le reste. Et il y en a d'autres. Hein. Dans la suite du bouquin, qui sortira je ne sais pas quand, je fais la liste de tous les arguments créationnistes et j'apporte une réponse. Voilà. J'ai fini. Voilà, juste là. J'ai toujours des problèmes. Donc, parce qu'il faut être humble, je me cite personnellement, c'est moi. La science consiste moins à avoir raison qu'à savoir quand on se plante. Et donc on peut tous se planter, et donc il faut une méthode pour ça. Et il n'est pas impossible que l'évolution soit une théorie fausse, en partie. Si c'est vrai, ce ne sera pas démontré avec un verset de la Bible. Ce sera démontré par des travaux qui montreront qu'en fait il y avait une incohérence. Donc c'est possible qu'un jour ce soit réfuté. Mais pour ça, il faut plus de science, pas moins de science. Voilà.